La diva suprême, et j'adore ça. C'est ce qu'elle déclare dans son livre de souvenirs paru en 1999. Aujourd'hui, Pop & Co et Pop & Aretha Franklin, tandis que sa vie est sur grand écran en ce moment avec le film Respect, tandis qu'une anthologie vient de paraître, sous la forme d'un coffret de 4 CD. On ne va pas parcourir l'œuvre en entier, mais s'arrêter sur l'album I Never Loved a Man The Way I Love You, et sur une décennie en particulier, les années 60. C'est à ce moment-là qu'Aretha Franklin prend la tête de la révolution soul et embrasse des luttes encore d'actualité. L'égalité entre les cultures et les communautés, l'égalité entre les hommes et les femmes. Aretha Franklin a chanté à l'investiture de plusieurs présidents américains démocrates, Jimmy Carter, Bill Clinton, mais pour Barack Obama, elle chantera au moment de sa prestation de serment. À sa mort, Obama a tweeté « Aretha a contribué à ce que signifie être américain. Dans sa voix, nous pouvions sentir notre propre histoire, notre obscurité et notre lumière. » Un peu avant midi, ça n'est plus une femme, mais un trio qui est à l'affiche de Pop & Co. Lionel et Marie Limignana, plus Laurent Garnier. Entrer dans les coulisses d'un des morceaux qu'ils ont conçu à six mains, c'est le programme. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Beurre ou confiture sur vos toasts, mon grand ?
Non, madame, rien.
1980. Cinéma de Reon, Meurthe et Moselle, une salle qui ne diffuse que des films en version française. Et ce jour-là, à l'affiche, il y a les Blues Brothers.
A Blues Brothers? Shit! They still owe you money, fool!
Entre-temps, je suis passée à la VO. Et nous sommes un certain nombre à voir Aretha Franklin pour la première fois grâce à ce film. Elle est patronne d'un resto de quartier avec son mari, mais tout de suite, on sent que c'est elle qui tire la baraque.
Don't you blaspheme in here! Don't you blaspheme in here! You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions.
Son bonhomme veut reprendre la route pour faire de la musique, et là, ça va être la fête à son matricule en chanson. Mon gars, si tu franchis le seuil de cette maison, tu ne remettras pas les pieds ici, qu'elle lui dit. Alors...
You better think.
Elle porte un uniforme de serveuse saumon avec un tablier couvert de taches d'huile. Et puis des mules en éponge. Et définitivement, c'est elle le capitaine. Elle tape sur le front de son bonhomme avec l'index pour que ça lui rentre bien dans le crâne.
Elle fait rayonner ce film par sa présence et par cette séquence que, personnellement, je trouve jubilatoire.
Je vous présente Sébastien Danchin. Il est l'auteur d'une biographie d'Aretha Franklin intitulée « Natural Woman ».
Pendant très longtemps au cinéma, les rôles dévolus aux femmes, je parle des femmes noires, bien évidemment, c'est la nounou d'Autant porte le vent, c'est la femme fatale. Il y a un certain nombre de femmes fatales qui généralement sont métisses, donc ça sous-entend que le métissage c'est quand même un truc un peu trouble. Et puis après, quand il y a eu la vague de ce qu'on a appelé la blaxploitation dans les années 70, on est tombé sur un tout autre type de femmes qui étaient des femmes baroudeuses, qui étaient espèces de James Bond féminin. Or là, elle n'arrive pas là-dedans, c'est pas la surfemme, c'est la bonne ménagère, mais c'est celle qui ne se laisse pas marcher sur les pieds par son mec, elle est un peu matrone hein, dans le truc, mais elle le fait d'une part avec humour, et elle vient rompre avec le cliché de la femme soumise qui a accompagné l'imagerie afro-américaine au cinéma, mais même ailleurs. Je trouve qu'on comprend vraiment qui était cette femme et quelle était sa position par rapport à la vie.
Franklin Aretha Louise. Née dans la pauvreté à Memphis en 1942, élevée sans sa mère, qui quitte le foyer quand elle a 6 ans, déménage à Détroit, Michigan, lorsque son père, le révérend C.L. Franklin, est nommé pasteur de la New Bethel Baptist Church. Le pasteur Franklin va graver ses sermons sur disque. Il devient une star de la communauté afro-américaine et une figure de la lutte pour les droits civiques. En 1956, Aretha Franklin accouche de son premier enfant et réalise ce tout premier enregistrement. Elle a 14 ans et cette voix-là.
Quand elle fait son premier enregistrement, toute jeune, elle est soliste à l'église, parce que c'est là qu'on se rend compte non seulement qu'elle sait chanter, mais surtout qu'elle a un pouvoir de conviction extraordinaire. Parce que il suffit pas de savoir chanter à l'église. Vous pouvez chanter correctement une chanson, mais si votre message passe pas dans l'interprétation, même si vous avez une jolie voix, ça n'ira pas loin. Or, elle a une force de conviction qui est comparable à celle de son père. Son père, il prêche, elle chante, et c'est pour ça qu'il l'emmène sur la route dans ses tournées. Bon, déjà, elle avait un instrument vocal extraordinaire, parce que elle était capable de chanter sur 4 octaves, voire même plus, je crois un peu, alors que Billie Holiday, c'est 1,5 octave. Le gospel noir américain, au même titre que le blues, c'est ce qui coule dans le système sanguin de l'Amérique noire. D'ailleurs, dans la communauté, on considère que le sang noble, c'est le gospel, et que le sang qui n'est pas noble, c'est le blues. Cette espèce d'ambiguïté entre la musique du samedi soir, qui est le blues, et la musique du dimanche matin, qui est le gospel. Alors, ce qui est extraordinaire chez elle, et ce qui est extraordinaire chez le révérend Franklin, c'est que lui fait partie d'une génération de prédicateurs qui n'est pas du tout fermée à la musique du diable, justement.
Donc au blues.
La maquette de ce morceau, Today I Sing the Blues, était venue à l'oreille de John Hammond. Hammond est celui qui a fait connaître Count Basie, Billie Holiday, Bob Dylan. John Hammond repère Aretha et il veut faire d'elle une chanteuse de jazz. Il lui fait signer un contrat discographique avec la maison Columbia. Et au fil des années, Columbia place Aretha dans des décors de plus en plus sophistiqués. Comme pour cette reprise d'une chanson d'Otis Redding, Try a Little Tenderness. Now I might forget it. Oh, but don't let me forget it. Love's all my whole happiness.
And it's so. So easy. Try a little. Oh, try a little tenderness. Tender, tender, tenderness.
Et puis Aretha va travailler avec le producteur qui a inventé le mot rhythm and blues. L'homme qui a fait venir Ray Charles sur le label Atlantic pour lequel il travaille. En 1967, Jerry Wexler fait son entrée dans la vie d'Aretha Franklin et c'est Sébastien Danchin qui vous raconte la suite.
Il dit bah, c'est dommage qu'on la mette dans un costume à paillettes musical de cette façon-là. Et surtout, il va avoir une idée. Il a dit, mais cette femme, elle est extraordinaire quand elle s'accompagne au piano. Parce que d'un seul coup, elle se retrouve, elle vous emmène à l'église direct. Donc même si on lui fait chanter autre chose que du gospel, elle le fait avec une flamme qui est extrêmement évocatrice de ce qu'elle a pu faire, de ce qu'on a pu entendre dans ces fameux enregistrements des milieux des années 50 réalisés dans l'église de son père, des enregistrements gospel.
Hey, it started to get good in there.
Yes, it did.
Man,
that rocking thing.
24 janvier 1967, la scène se passe au Studio Fame de Muscle Shoals, au fin fond de l'Alabama, au sud des États-Unis. Aretha Franklin réalise son premier enregistrement avec Jerry Wexler pour le label Atlantic. Et le musicien Dan Penn raconte, elle a plaqué ce premier accord sur son piano et ils avaient l'air d'abeilles autour de leur reine. Ce jour-là, Aretha Franklin trouve sa voix VOIE et elle prend la tête de la révolution soul. I love you. I never loved a man the way that I love you. C'est le titre entier de ce morceau. « Je n'ai jamais aimé un homme comme je t'ai aimé. » Pourtant, elle décrit ce gars comme un bourreau des cœurs, menteur, infidèle, mais elle l'a dans la peau quand même. Une relation toxique, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Et c'est la bande-son de la vie privée d'Aretha Franklin à ce moment-là.
Aretha Franklin est mariée à ce moment-là à un type qui non seulement prend ses affaires en main, mais elle prend son portefeuille en poche aussi.
Il lui prend son portefeuille.
Oui.
Enfin, il lui prend son blé, quoi.
Ah ben oui, c'est un... C'est...
Ted White, il s'appelle.
Ted White, oui. Ça fait partie de ces personnages que dans le ghetto, on appelle des pimps. C'est... Le terme de macro n'est pas toujours bien, ou alors il faut l'entendre au sens large. C'est les gens qui ont tendance à exploiter les autres, et en particulier les femmes.
Mais reprenons.
Love me, oui, I love you.
Elle était femme battue à ce moment-là.
Bien sûr, elle était avec ce type qui la malmenait, qui à la fois... Alors, il s'engueulait, elle repartait, il la foutait dehors. Des fois, il arrivait que ce soit elle qui lui dise « je veux plus te voir », etc. Mais enfin, c'était des rapports complexes. On joue toujours un peu le même jeu du côté de l'Amérique blanche, si vous voulez. On essaye de faire pleurer Margot en jouant sur la corde, sur le pathos, etc. Or, elle détestait ça, parce qu'elle se considérait pas comme une victime. Ou alors, si elle se considérait comme une victime, c'est d'elle-même et d'un système qui l'avait modelée de cette façon-là, avec un père très autoritaire, avec un mari très autoritaire, etc. Mais elle se voyait pas comme une victime, une pauvre victime expiatoire. Et c'est exactement la même chose avec Billie Holiday. C'est des femmes qui savent qu'elles viennent d'un système qui est dur de ce point de vue-là, où il y a des rapports entre les sexes qui sont extrêmement durs, qui sont violents. Mais elle ne se voit pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui dénonce les oppressions.
C'est dans ces circonstances qu'est née la chanson « Respect » selon Aretha Franklin, parce que la version originelle est écrite par Otis Redding, et c'est l'histoire d'un homme qui dit en gros « Je me suis crevé au boulot toute la semaine, donc je pourrais au moins mettre les pieds sous la table en rentrant à la maison. » Aretha et ses sœurs en font tout autre chose. Un hymne féministe où une femme exige le respect de son bonhomme. Ce matin, Pop & Co est dédié à Aretha Franklin.
Hello.
Didi Bridgewater, chanteuse de jazz au bout du fil. Elle fut l'une des artistes invitées pour le concert hommage à Aretha Franklin le jour de ses obsèques, en août 2019. Didi Bridgewater, depuis sa maison de la Nouvelle-Orléans, est face à sa discothèque.
J'ai Amazing Grace, j'ai I Never Loved a Man, j'ai Lady Soul... Ma vie a été ponctuée par sa musique, donc elle était toujours présente, musicalement parlant. C'était une artiste qui était aimée par ma mère, par moi, par ma sœur. On peut dire que Respect, c'est une chanson, surtout pour les femmes, oui, c'est une sorte de cri de la liberté féminine. Mais le décès de... George Floyd et d'autres personnes noires américaines, c'est devenu un cri de respect pour nos personnes. Ça a pris une autre dimension, cette chanson. J'aime cette femme et quand je veux me booster le moral, je mets Aretha. Et je le mets loud et je danse et je chante avec et puis je me sens mieux.
13h, France Inter.
Nous sommes le 25 juillet 1967.
Jean-Claude Héberdé, le journal d'Interactualité Magazine.
Et j'en reviens à notre sujet principal, la situation sur le front racial aux États-Unis. C'est à Détroit, vous le savez, à Détroit dans le Michigan, que les troubles raciaux sont les plus violents. Depuis 48 heures, les scènes de guerre civile se succèdent dans tous les quartiers de la ville, pratiquement, de cette ville qui était le symbole de la prospérité des États-Unis.
C'est à ce moment-là qu'Aretha Franklin publie l'album « I Never Loved a Man The Way I Love You », sur lequel figure « Respect » plus « Change Is Gonna Come », une chanson de Sam Cooke, qu'on peut traduire par « Un changement va advenir ».« Respect » plus « Change is gonna come », deux titres devenus des hymnes de la lutte pour les droits civiques. Oh, oh, Sébastien Danchin, historien des cultures afro-américaines et auteur d'une biographie d'Aretha Franklin.
Le blues parle à la première personne du singulier, c'est je. C'est je chante pour prouver que je suis encore en vie et que je ne suis pas mort et qu'on ne m'a pas tué et que je suis là. Le blues, c'est un psy au quotidien. On raconte ce qu'on vit au quotidien et on se sent mieux après. La soul passe de la première personne du singulier à la première personne du pluriel. On passe au nous. Et c'est une bascule extrêmement importante parce que c'est le moment où on comprend que l'union fait la force et qu'on va pouvoir gagner. C'est Andrew Young, qui était un des lieutenants de Martin Luther King, qui a dit à plusieurs reprises que sans la musique soul, il n'y aurait jamais pu avoir le mouvement de lutte pour les droits civiques n'aurait jamais pu aboutir ni aussi vite ni aussi bien. Et que le retentissement qui a été donné à ce mouvement par des chanteurs, ce n'était pas des chanteurs qui venaient apporter leur soutien. C'était vraiment des voix de la communauté qui s'élevaient.
Very simply, she doesn't sing soul, she is soul.
Traduction, c'est très simple. Elle ne chante pas la soul, elle est la soul. Parole du comédien et chanteur afro-américain Sammy Davis Jr. Aretha Franklin, icône du féminisme. Militante de la lutte pour les droits civiques, plus chanteuse de l'érotisme et du sexe, entre autres avec ce titre qu'elle a co-composé et co-écrit, Dr. Feel Good, Love is a Serious Business.
Don't send me no doctor. Fill me up with all of those pills.
Présentation de Dr. Feel Good par Didi Bridgewater.
Dr. Feel Good, j'ai chanté énormément moi-même, j'ai même enregistré. Elle parle d'un mec qui peut la faire sentir très bien.
C'est ça.
Et pour elle, c'est comme un médecin, quoi. C'est quelqu'un qui se soigne bien d'elle. À l'époque, j'avais pas entendu une femme qui chantait comme elle, donc elle avait une voix qui était pour moi très puissante. À ce moment-là, j'avais 17 ans.
Sébastien Danchin.
Dr. Feelgood, ça s'inscrit directement dans la droite lignée des métaphores du blues. L'Amérique généraliste blanche est extrêmement puritaine. C'est un schéma, hein, mais c'est en gros comme ça. On n'a pas le droit de dire des gros mots. Je veux dire, quand vous travaillez sur une radio nationale où il est dit régulièrement « bite, con et cul », en Amérique, c'est inimaginable. Enfin, ça l'a été pendant très très longtemps. Or, les Afro-Américains ont eu un rapport à l'ouverture du discours, c'est-à-dire parler ouvertement de sexe, ils l'ont fait de manière beaucoup plus spontanée que ne faisait l'Amérique moyenne. Donc, très vite, il a fallu se planquer. C'est pour ça que vous trouvez dans le répertoire du blues, dans les années 20 et dans les années 30 en particulier, énormément de choses qu'on considère, qu'on met aujourd'hui dans les risqué songs, le mot risqué ça veut dire grivois en réalité, et qui passait la censure au même titre que nous avons eu les sucettes de Gainsbourg avec France Gall.
Il y a tout ça dans Dr. Feelgood, de la part d'Aretha ?
Forcément.
La chambre à coucher, le studio, la rue pour manifester et l'église, quatre lieux qui balisent le répertoire d'Aretha Franklin.
Travels both day and night, oh, yes. Coming up from every
En 1972, Aretha Franklin enregistre un album de gospel en public au New Temple Missionary Baptist Church de Los Angeles. Sidney Lumet l'a filmé et on voit deux Rolling Stones, Mick Jagger et Charlie Watts, qui se sont glissés dans le public. La chanteuse béninoise Angélique Kidjo n'y était pas, elle avait 12 ans. Mais elle a acheté le disque de ce concert intitulé « Amazing Grace ». Dans ses mémoires, Angélique Kidjo raconte « C'est la première fois que je voyais une noire sur une pochette de disque. Aretha, assise sur les marches d'une église, vêtue d'une magnifique robe africaine. Elle regarde droit dans l'objectif avec un petit sourire. Dans cette image, il y avait tout un monde de possibilités. »
Ça a été une des particularités d'Aretha Franklin, c'est qu'elle a voulu se produire elle-même, c'est-à-dire devenir sa propre directrice artistique. Dans le disque, ça ne se faisait pas. Dans les années 50 et 60, on vous mettait entre les mains de quelqu'un qui vous disait « Tu vas chanter ça avec un tel, on va te mettre des cordes, on va te faire ceci, etc. » Mais au bout d'un moment, elle a estimé que elle avait son mot à dire dans la direction artistique. Ça peut paraître symbolique. D'abord, ça ne l'est pas financièrement parce que la production est un droit d'auteur et qu'en tant que directeur artistique d'un album, quand un album est réussi, vous touchez des droits d'auteur très conséquents. En même temps, elle avait une maîtrise en studio à la fois des harmonies, des couleurs musicales qu'elle voulait mettre, etc.
Précision, l'album de gospel Amazing Grace paraît sur le label Atlantic, piloté par Jerry Wexler.
Elle a demandé à produire un disque et en plus elle lui a dit « Celui-là, je ne veux pas que ce soit de la chanson, je voudrais que ce soit un disque de gospel. » Alors là, il a dit « Alors là, on est foutu. » Parce que gospel, ça ne se vendra jamais. C'était vraiment un marché ethnique. Elle avait un caractère très affirmé. À un moment, il a lâché l'affaire. Il a dit « Bon, c'est bon, bah, t'as qu'à produire celui-là, etc. » C'est resté pendant très longtemps l'album de gospel qui s'est le plus vendu au monde pendant plus de 20 ans.
Retour en 1967. You Make Me Feel Like a Natural Woman, c'est le titre de cette chanson, et Natural Woman, celui de la biographie signée Sébastien Danchin.
Ça l'a très bien représenté parce que c'était elle, c'est quelqu'un de très nature. Quand vous alliez chez elle, elle vous recevait en savate, mais comme elle ressemblait exactement à la femme de Cinq.
Blues Brothers.
Exactement, dans les Blues Brothers, il n'y avait rien de grandiose. Elle était en cheveux, comme on disait autrefois, quand vous pouvez le lire dans les romans de Simenon, une femme en cheveux, c'est-à-dire pas coiffée. Elle se vautrait sur le canapé parce qu'elle disait « Bon, allez, vous vous installez là, moi j'ai pas fini de regarder mon soap à la télé », donc elle regardait les Feux de l'amour et... Bon. Et en même temps, elle était hyper classe parce qu'elle était capable d'être hyper classe quand il fallait. Mais c'est une dualité qu'on retrouve dans sa propre communauté à ce moment-là, qui est un moment charnière. On arrive avec les années 70 à une bascule, à un embourgeoisement très net de toute une partie de la communauté afro-américaine. Et donc, elle est caractéristique, elle porte en elle cette mue de toute une communauté. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle a eu autant de succès dans sa communauté, pourquoi elle parle autant aux Afro-Américains et en particulier aux Afro-Américaines, aux femmes de l'Amérique noire, parce qu'elles ont suivi à peu près la même trajectoire. Elles sont passées de rien à vraiment quelque chose. Et elle est l'exemple que c'est possible, au même titre que Obama est l'exemple d'impossible. Sans Aretha Franklin, sans James Brown, Mohamed Ali, sans toutes ces idoles de l'Amérique, de toute l'Amérique, il n'y aurait pas eu un président noir. Il n'était pas imaginable qu'on puisse accepter d'être représenté, d'être incarné par un Afro-Américain, à moins d'avoir eu des idoles afro-américaines.
Le 6 décembre 2015, Aretha Franklin interprète Natural Woman au Kennedy Center. Dans le public, il y a le couple Obama. Elle entre sur scène en diva avec un manteau de fourrure énorme, et puis elle marche sur le devant de la scène, et laisse tomber le manteau.
Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle vous dit, oubliez pas, moi je suis une natural woman. Le vison, ça n'est qu'un attribut, ça n'est pas moi. Et je pense que cette image qui a fait le tour du monde, parce qu'elle est extraordinaire, elle est passionnante quand on l'analyse à l'aune du public qui est là, c'est-à-dire de Barack et Michelle Obama. Eux qui viennent d'un milieu modeste, l'un et l'autre, pas pauvres, mais c'est vraiment les classes moyennes inférieures qui ont accédé donc aux plus hautes fonctions. Ils sont là et en fait, elle dit... On est en vison aujourd'hui, mais n'oublions pas qui nous sommes vraiment, et c'est ça que nous sommes vraiment. Je pense que c'est extrêmement touchant pour quelqu'un d'intelligent comme cet homme et quelqu'un de très intelligent comme sa femme, de comprendre que on reste irrémédiablement soi-même dans la vie et que l'assumer, c'est une forme de noblesse unique.
That's a sound of pain.
Le 16 août 2019, on apprend la mort d'Aretha Franklin, le jour de ses obsèques à Détroit. 100 Cadillac roses accompagnent le cortège. La cérémonie dure 7 heures, notamment en présence des Clinton, et surtout en présence des représentants de mouvements de défense des droits de l'homme, de la femme, des minorités.
Ce sont des funérailles d'un personnage d'État. C'était les funérailles d'une grande chanteuse, mais c'était surtout les funérailles d'une personnalité politique du monde noir.
Chain, chain, chain.
Aretha Franklin, portrait d'une natural woman, c'est le titre de la biographie passionnante signée Sébastien Danchin, l'historien des cultures afro-américaines que vous avez entendu tout au long de ce récit. Sa bio a fait l'objet d'une réédition augmentée au moment de la mort d'Aretha Franklin et elle est publiée chez Bûcher Chastel. Vous pouvez aussi visionner le documentaire de France Swinberge, Aretha Franklin, Soul Sister, c'est sur arte.tv et le film est en ligne jusqu'au 1er décembre.
France Inter. Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Allô ?
Lionel ?
Oui, tu m'entends bien, est-ce que je suis dans un taxi ?
Et à côté de Lionel, il y a Marie, et à eux deux, ils sont de Liminianas. Ils sont en tournée en ce moment pour jouer l'album qu'ils viennent de publier avec le DJ et musicien Laurent Garnier. Des Pellicula, c'est le titre du disque. On va entrer dans les coulisses d'une des chansons bientôt. Bientôt parce qu'avant, de Liminianas, on choisit Nouvelle-Orléans, morceau du groupe La Femme.
Le disque qui vient de sortir ressemble à aucun disque que je connaisse, quoi. Et j'ai trouvé ça osé de leur part de balancer un disque comme ça en ce moment. Je trouvais ça vachement intéressant. Et aussi, on a une histoire commune avec eux parce qu'on a démarré autour de 2009 à peu près en même temps et on n'a jamais cessé de se croiser, tu vois, sur les tournées, certains festivals dans les salles. On fait pas tout à fait le même style de musique, mais je sais qu'on a des tas de groupes et de goûts et d'influences en commun et voilà.
Et voilà, Nouvelle-Orléans, extrait du dernier album de La Femme dans Pop & Co. Je ne pouvais pas les rater. Lui, avec sa longue barbe, elle, avec sa chevelure rousse. Chacun dans ses boots et une valise qu'il traînait depuis la gare. Lionel et Marie Liminiana, dit de Liminianas. Ce matin-là, ils arrivaient de Cabestany, petite ville à quelques bornes de Perpignan, là où ils vivent depuis toujours. Lui est aux guitares, elle assure la rythmique, et ils viennent de co-signer un nouvel album, un road movie musical, l'histoire d'un couple en cavale. Les premiers mots du disque sont ceux-là. Il s'agit d'un petit mec de province. Il aime la musique et le cinéma, il va au lycée, mais il déteste ça. Ces quelques phrases sont un autoportrait de Lionel et Marie Limignana.
Il y a un lycée qui s'appelle Jean Lursa à Perpignan. C'est un bahut qui était plein de punk, de skin, de reggae man, de rocker, de mods. Et c'est avec ces gens-là qu'on traînait en fait. Et on était complètement à l'écart de ceux qui faisaient du sport, qui suivaient les cours. Et faut pas, surtout pas que mon fils entende cette interview. On lui a toujours parlé du contraire, mais voilà quoi. En gros, c'était ce genre de profil-là quoi. Le tout premier groupe qu'on avait, ça s'appelait les Gardiens du Canigou, et c'était toujours dans des halosports ou des cafés pourris, tu vois, des bars tabac. On allait jouer partout où on pouvait parce qu'il n'y avait pas de lieu. Mais ça donnait des situations qui étaient assez drôles et qui nous mettaient encore plus en marge de tout ce truc-là, quoi.
Vous avez fini par réussir à en vivre à partir de quel moment alors de la musique ?
Alors, on n'a jamais cherché à en vivre. Ça nous est tombé dessus, plutôt. On s'est arrêté de bosser il y a quoi, 3 ans, quoi. On a 50 ans, en gros. On a commencé à jouer dans des groupes à 16 ans. Donc on a passé toute notre vie à jouer, mais pour bien d'autres raisons que celle de gagner notre vie. C'était vraiment pour tourner, faire des disques. On a toujours fait ça.
Vous faisiez quoi comme boulot avant, alors, tous les deux ?
Bon, alors Marie a travaillé très longtemps à la médecine du travail. Mais moi, j'ai fait... mon boulot de base, c'est disquaire. Donc j'étais disquaire indépendant. Mais c'est une période où on a perdu plein de blé. À un moment donné, on a été obligé d'arrêter. Moi, j'ai fait des tonnes de boulot alimentaire. J'ai bossé à l'usine, j'ai bossé dans les champs... J'ai fait des Pères Noël en chocolat, enfin j'ai fait plein de trucs.
Mais quoi ?
J'étais démouleur de Pères Noël en chocolat à un moment donné.
Faire carrière, ça n'était pas l'idée, mais plutôt faire des disques comme on part à l'aventure. Leur nouvel album s'intitule « Des Pellicules ». Il a été conçu à 6 mains, Lionel et Marie Limignana, plus un DJ, producteur, musicien, pionnier d'électro, en deux mots, Laurent Garnier. Ce matin, on soulève le capot de ce morceau. Pour le chant, ils ont fait appel à un artiste qu'ils admirent, c'est Bertrand Belin. Belin et la voix est l'auteur de ce texte, intitulé « Au début, c'était le début ».
Au début, c'était le début. Ce fut la suite. Le bois et le couteau, la foule et le poteau, l'autocapote, lécher la route. Les murs sont tachés, la porte est arrachée. Les nuits sont des nuits d'amour, dur à digérer. Un séjour sans secours, au sommet d'une tour penchée. La tranquillité, la journée, le phono abandonné. Je te garde. Dans l'aridité, je te garde beauté. Pousse ton bras que je m'allonge. La journée m'a tué. La journée m'a tué.
La musique est signée Laurent Garnier, Marie et Lionel Limignana. Lionel et Marie sont là, mais pour elle, le micro c'est Niette. Alors Lionel me demande de préciser que c'est elle qui ne veut pas parler en ajoutant sinon je vais me faire engueuler. C'est donc lui qui raconte l'histoire de cette chanson. Au début, c'était le début.
Dès que j'ai une idée, je l'enregistre parce que sinon je l'oublie immédiatement. Donc le départ de la chanson, c'était sur mon téléphone, c'est ça. Ça c'est vraiment une guitare électrique contre le téléphone. Voilà, ça c'était pour pas oublier. Donc après, à la maison, on a fait ces guitares-là. Donc on a vraiment ralenti le tempo. Et si vous collez le beat de Marie par-dessus, on a ça. On a rajouté une basse. Comme d'habitude, avec ce groupe, on travaille que sur une tourne d'accords très simple, sur la répétition.
C'est-à-dire qu'il y a cette idée de quelque chose qui revient en boucle.
Exactement.
Comme une transe.
C'est exactement ça, c'est l'idée. C'est parce que c'est depuis toujours ce qu'on aime le plus dans la musique qu'on écoute, donc ça va être trois accords qui jouaient à l'infini, comme ça on rend fou. Parce que moi, c'est ce que j'aime le plus dans la musique.
Et juste, si on écoute que la guitare, il y a un moment où ça s'embrase.
On a rajouté une couche de fuzz, qui est un peu notre ingrédient secret.
Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que la couche de fuzz ?
C'est une boîte en fer. Quand vous appuyez dessus, la fuzz distorsionne le son. Il y a des tas de distorsions différentes. La fuzz est très particulière. Elle est connue, par exemple, pour être le son de riff de Satisfaction des Rolling Stones. Depuis tout gosse, hein, depuis je sais pas, 8 ou 10 ans, mais 8-10 ans. La première fois que j'ai entendu Satisfaction, par exemple, c'est vraiment le son qui rend fou, c'est vraiment ça qui était...
Ça vous a vrillé la tête.
Absolument, ouais. Et j'en mets à toutes les sauces. Nous, on fait un boucan pas possible dans la maison, à peu près en permanence, pour choper différentes manières d'utiliser la fuzz, quoi. Ça nous donne, sur scène, l'effet d'une espèce d'effet bombardier, comme ça, qui fait passer la chanson sur une autre étape, en gros.
Ce morceau s'est construit pendant le premier confinement, comme tout le reste de l'album d'ailleurs. Marie et Lionel Limignana ont échangé des idées avec Laurent Garnier via le net. Ça a été un ping-pong musical à distance. Et dans l'un des envois de Laurent Garnier, il y avait ça, un élément intitulé « Western ».
Il a à la fois... trouver ce thème qu'il appelait western et qui est devenu en fait ce qu'on retient. Et ça fait, il y a un côté western mais moderne en fait, puisque c'est pas un instrument traditionnel du western, c'est ni un banjo ni une folk ni une douze cordes. Là il s'agit d'un synthétiseur et de musique électronique.
Dans l'intitulé des pistes qui m'ont été envoyées, il y en a une qui porte le titre suivant: une prise pour bien se prendre la tête.
Ça c'est Laurent. Oui. C'est une atmosphère qui est un peu sombre, un peu glauque, comme ça. Et j'imagine que c'était son objectif, que ça tourne un peu la musique vers quelque chose de plus cérébral, quoi.
Cette chanson, au début c'était le début, fait partie d'un récit, celui que raconte l'album entier. C'est l'histoire d'un amour entre Saul et Juliette. Ils prennent la fuite vers l'Espagne, et ça tourne mal.
Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant quand on l'a reçu, la manière qu'a eu Laurent de tordre ce qui aurait pu être une balade un peu facile et de l'amener sur un terrain qui était un peu plus celui de l'histoire, qui à ce moment-là est un peu glauque, puisque c'est le moment de l'histoire d'amour où la réalité prend le dessus et où on s'aperçoit que ça va pas être si simple que ça et que tout s'étiole autour d'eux. Nous, on a fourni quelque chose qui était en gros une balade à jouer à une fille au bord de la plage en début d'été. Là, d'abord avec Laurent et ensuite sur le travail de Bertrand sur le texte, ça va l'amener complètement ailleurs.
Est-ce qu'on peut écouter la voix de Bertrand Belin ?
Ouais.
Je te garde beauté, dans l'aridité je te garde beauté. Pousse ton bras que je m'allonge, la journée m'a tué.
C'est la troisième fois que Bertrand Belin pose sa voix et un texte sur la musique des Limignanas.
Déjà, c'est ce que je préfère de la chanson française. Sa façon d'écrire, mais sa façon d'interpréter aussi. Et comme d'habitude avec Bertrand, on n'a rien retouché du tout. Puis il y a aussi, Marie me l'avait fait remarquer la dernière fois, il y a aussi des boucles dans ces textes. Ça rejoint aussi notre manière de bosser, et Laurent Garnier et nous.
C'est-à-dire qu'il y a la boucle du motif de guitare, le
ouais.
Riff.
Je te garde beauté.
La boucle des mots répétés dans le texte.
Absolument.
Dans l'aridité, je te garde beauté.
Et la boucle électronique.
C'est ça.
La journée m'a tué. La journée m'a tué.
Comme au début, on parlait de pas avoir eu pour ambition de vivre de la musique un jour. Comment vous le vivez aujourd'hui tous les deux ? avec Marie.
Il y a toujours cette espèce de... un peu de crainte que ça s'arrête, mais en même temps, c'est pas vraiment un flip, parce que je sais que s'il fallait reprendre un boulot lambda, je le ferais sans aucun problème, mais c'est pas forcément l'aspect financier le plus important, très sincèrement. On vit à peu près de la même manière qu'avant, c'est juste qu'on a vécu des trucs qui étaient vraiment hallucinants ces 5 dernières années. Quoi.
Le rêve, quoi.
Ouais. Absolument, ouais.
Au début, c'était le début. Mais vite, ce fut la suite. Le feu au château, l'oiseau dans le mazout, l'eau ton caboot, la neige crado, la mort du frigo. La porte est arrachée. Les nuits sont des nuits d'amour, dures à digérer. Un séjour sans secours, au sommet d'une tour penchée. Pas de tranquillité à journée. Le phono. Je te garde beauté dans l'aridité. Je te garde beauté. Pose ton bras que je m'allonge. La journée m'a tué. M'a tué. Ta douleur m'aime. Pose ton bras.
Des Pellículas, c'est le titre du nouvel album des Liminianas et de Laurent Garnier. Les Liminianas sont en tournée jusqu'au printemps 2022. La prochaine date, c'est le 20 octobre, à l'Espace Julien de Marseille. Suivra le Rockstore à Montpellier le 21. Ils seront aussi sur la scène du Trianon à Paris le 6 décembre. Le détail des dates est sur le site de Pop & Co. Koyen Guyen a réalisé cette émission avec Pauline Laverdure ce matin. Ilinka Negulesco prépare Pop & Co chaque semaine et JB Audibert est l'aiguilleur de la programmation musicale. Samedi prochain, 16 octobre, Pop & Co sera dédié à la chanson et l'Algérie. À samedi!